En fait, le point de départ de cette histoire que je vais vous raconter, qui est vraiment ma motivation principale depuis une vingtaine d'années, qui est de réduire la perturbation dans les études sur les animaux, car elle introduit un biais expérimental. Le point de départ, c'est à l'époque où nous avons fait connaissance avec Claude, quand je suis arrivé en terre adélie, comme jeune bat, mon prédécesseur René Groppola m'a emmené dans la colonie d'études d'Adélie. Et là, j'ai vu deux ou trois individus peureux, terrorisés. Ils étaient les seuls dans une colonie qui, au départ, devait faire au moins 50 à 100, une centaine d'individus. Et alors que toutes les autres étaient à l'époque opulentes, ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, à cause du changement climatique, ça a commencé à poser des questions. Mais j'étais là pour réaliser un programme, et ce n'est que plus tard, vous allez voir, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, grâce à des développements technologiques, qu'il a été possible d'éviter cette perturbation. Alors, pour tout étude, que ce soit une mésange dans nos jardins, des éléphants de mer à Kerguelen, pour toute étude, quand on veut étudier cette grande question de l'impact du changement climatique sur la biodiversité, car tout mon exposé tourne autour des méthodes pour y arriver le mieux possible, sans biais scientifique, on part d'un compromis, on étudie le compromis entre l'investissement de l'animal pour réussir sa reproduction, car comme nous, quand on élève des enfants, les animaux dans leur milieu naturel ont un surcroît de travail, un surcroît de dépenses énergétiques. Et quand ils n'ont pas, par exemple, l'alimentation nécessaire, ce qui arrive, par exemple, quand l'effet El Niño se fait sentir jusqu'au Galapagos, vous avez 16 millions d'oiseaux de mer qui tournent sans pouvoir se reproduire, sans pouvoir assurer sur ce surcoût. Mais, néanmoins, et je suis physiologiste, donc très préoccupé par ce type de questionnement, l'animal dans son milieu naturel ne va pas investir au-delà d'une certaine limite, mettant en cause sa survie. Donc il y a un compromis, et c'est un Suisse, Stiens, qui était à l'origine de, on va dire, la conceptualisation, toute étude sur l'animal qui va essayer de répondre à l'impact, à la question de l'impact du changement climatique sur une dynamique de population, va passer par l'étude du compromis entre investir pour réussir la reproduction, produire un poussin, assurer sa survie, mais sans entamer la survie de l'animal reproducteur. Alors c'est d'autant plus vrai pour les animaux à grande longévité, comme les manchots. Ils prennent moins de risques que par exemple dans nos jardins, je prends l'exemple de la mésange. La mésange, les mésanges peuvent, vous savez, celles qu'on attire par les nichoirs, elles peuvent se reproduire plusieurs fois en un cycle reproducteur, chaque fois avec 5, peut-être plus selon l'espèce petit. Et donc là, ça se renouvelle très vite, et le risque pris dans la survie de l'adulte est beaucoup plus grand chez des oiseaux longévifs. Donc là, c'est ce qu'il faut savoir. Alors, quand j'ai démarré, envoyé par Jean Prévost en 72, pour y venir en 72, technologiquement, en biologie, par rapport à ce qui se faisait déjà dans d'autres disciplines, vous voyez que c'était assez primitif. Par exemple, pour mesurer une température, on n'avait même pas encore les thermistances. Et dans mon étude qui avait porté sur la mesure de la dépense d'énergie du manchot rompreur en fonction de la température, en fonction du vent, je devais amener les animaux au laboratoire pour faire ces mesures. En pompant l'air, d'ailleurs, il a travaillé de Shadok, l'air étant analysé dans le laboratoire, mais techniquement, il était impossible à l'époque de faire une étude de l'animal en son milieu naturel. Ça a complètement changé. Et on a été les premiers, par exemple, à la fin des années 88, à pouvoir déterminer la dépense énergétique de manchots en tortue grâce aux isotopes stables. les mêmes, oxygène 18, deutérium, utilise nos molettes, bien sûr. Jusque-là, c'était impossible. Il fallait ramener l'animal, lui mettre un masque respiratoire, et on a, à cette époque, on a montré que les manches empereurs abaissent leur métabolisme en dessous du niveau minimal lorsqu'ils sont serrés les uns contre les autres, montrant ainsi le rôle de la torture. Autre développement technologique extrêmement important, vous en êtes tous témoins par les progrès en miniaturisation au niveau des smartphones et autres outils extraordinaires d'aujourd'hui, et on a été les premiers à utiliser, c'est André Ancel qui avait piloté cette étude, à utiliser des loggers. Donc un logger, c'est des systèmes, ce sont des petits ordinateurs individuels qui vont permettre de suivre. Alors en haut, c'est, je vais montrer avec un autre, si on voit, en haut, c'est la lumière, et puis en bas, en bleu, c'est la température. Alors qu'est-ce qu'on voit dans le film de Luc Jacquet, ça a été fait à peu près à la même époque, donc dans la marche de l'empereur, ça n'avait pas encore été pris en compte. On avait l'idée jusqu'à récemment que les manchots empereurs peuvent rester des jours ou des semaines serrés les uns contre les autres pour réduire leurs dépenses énergétiques. Et qu'est-ce qu'on a montré avec cet appareil miniaturisé dont on a équipé les manchots empereurs dans la colonie? Et puis on a pu voir, vous voyez en haut, que la lumière, notamment la nuit, quand c'est noir, c'est la nuit, la lumière, parce qu'on est capable de mesurer la lumière, parce que c'est tellement sensible ce petit appareil qu'on équipe les animaux, on a une luminosité la nuit. Et vous voyez que ça s'effondre. Zéro. Alors zéro, ça veut dire quoi? Il n'y a plus aucun photon mesuré par cet appareil ultrasensible. C'est tout simplement parce que les empereurs sont tellement serrés les uns contre les autres qu'il n'y a plus de lumière mesurée par le petit appareil qui est posé soit sur le ventre, soit sur le dos. Ça correspond au fait que les manchots empereurs, quand ils se serrent les uns contre les autres, ont une pression phénoménale de manière à ne pas laisser quelques centimètres carrés en dehors du contact. Mais ce qui nous a frappé, vous voyez, c'est que très rapidement, on revoit la lumière, et ça c'est la lumière de nuit, pardon, excusez-moi. Donc ça c'est le niveau de la lumière de nuit, on voit que ça remonte, ça redescend.
On voit pas le pointeur.
Vous voyez pas le pointeur. Alors, partons, je ne sais pas s'il y a un laser dans la salle, donc, à partir de la gauche, vous voyez, on est à 150. 150, c'est la luminosité de jour. Ça tombe, et vous voyez, les crêtes sont toutes à peu près au niveau 100 de lumière. Ça, c'est la luminosité de la nuit. Vous voyez que régulièrement, ça tombe à zéro. Quand ils sont serrés les uns contre les autres. Et c'est quand même pas rien, parce que c'est taille d'un empereur, donc 30 à 40 kilos à cette époque, 10 oiseaux qui mettent clairement la pression. Et récemment, on a même pu voir, en étant très attentif, des manchots empereurs qui sont soulevés par la pression et se retrouvent à l'horizontale. Alors, vous imaginez le foutoir dans la colonie à ce moment-là. Donc, la pression est colossale, il faut qu'ils se serrent, mais avec une pression phénoménale pour réduire leur dépense énergétique. Mais, comme le montre l'image bleue en dessous, regardez à partir de la gauche, la température très rapidement monte. Et en toutes les 45 minutes, ce qui montre qu'il était faux de considérer qu'il restait des jours ou des semaines serrés les uns contre les autres, toutes les 45 minutes, ils se séparent. Et c'est ce qu'on voit ici, sur cette image, où vous avez des individus ici, lorsque la température, dans la tortue, en fait, il crée un environnement tropical. C'est le même principe, on va se trouver dans une cabine de téléphérique avec des anoraks, serrés les uns contre les autres, on a trop chaud. Ils sont en hyperthermie. Le problème de ces oiseaux, c'est qu'ils n'ont pas d'apport hydrique la plupart du temps, parce que vous savez bien, la neige fraîche est rare. Et donc, à ce moment-là, il y aurait un gros problème s'ils rentraient en hyperthermie, comme les chats, le chien qui a couru, par exemple, qui allait et qui a besoin de boire rapidement, il y aurait un gros problème. Ils abandonneraient leur incubation, les mâles, durant leur long jeûne, parce qu'ils seraient déshydratés. Donc ils se séparent. Et voici deux images, et ça nous avait échappé, ça avait échappé à tout le monde. Voilà deux images à 1h30 d'intervalle. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? On ne peut pas comprendre le lien entre le climat et une population sans suivre des individus. Même chose pour les manchots royaux. Manchots royaux, alors là, il a décidé ça. Quand on a équipé les manchots royaux, de balises à bosse, on a compris pourquoi les poussins jeûnent au cours de l'hiver. On l'a compris, alors vous le voyez ici, parce qu'en hiver, c'est le tracé jaune, les royaux, les manchots royaux, entrent dans le territoire des manchots royaux, puisqu'ils vont se nourrir dans la limite des glaces. Et ça, la raison, on l'a compris, c'est parce que les poissons mictophilés dont ils s'alimentent descendent à des profondeurs inaccessibles. Il n'y a plus de nourriture pour eux, en tout cas beaucoup moins. Et en été, par contre, vous voyez, ils vont s'alimenter à 300-400 km. Mais c'est là où intervient le changement climatique. Et Claude présente ça forcément beaucoup mieux que moi. Mais vous avez ici, en bas, l'élévation du niveau de la mer en fonction des années. Vous voyez, entre 92 et 2000, par exemple, c'est ce qu'on a fait avec Charlie Post à l'époque où il était à Strasbourg. Vous avez la hauteur moyenne de la mer, zéro. Comme vous savez probablement, cette hauteur de la mer, elle est mesurée par des satellites, type Topex Poseidon, la nouvelle génération aujourd'hui. Donc des satellites qui sont à 1000 km au-dessus de nous et qui mesurent la hauteur entre le satellite, la distance entre le satellite et la mer. La distance moyenne est de zéro. Quand la distance est plus grande, c'est parce que le niveau de la mer est moins élevé. Et s'il est moins élevé, là, on n'est pas dans la fonte, hein. Là, c'est une question de température. C'est-à-dire que le niveau fluctue en fonction de la température. Donc, on a, à gauche, par exemple, du graphe, on a entre 92 et 96 des années froides. Par contre, quand le niveau de la mer monte, c'est parce qu'il y a des années chaudes. Et comme vous voyez en haut, dans les tracés à gauche, les manchots royaux doivent aller beaucoup plus loin en années chaudes, chercher leur nourriture. Donc voilà, en quelques exemples très courts, parce que c'est pas l'essentiel de l'exposé, l'illustration des conséquences du climat sur ces animaux. Donc, encore une fois, on veut avoir l'information de l'impact de ces conditions, qui vont être, par exemple, devoir aller beaucoup plus loin en mer pour s'alimenter, et on sait que le succès reproducteur est moins grand, lorsque on est en années chaudes. Mais, et ça c'est le cœur de mon exposé, le principe de toute étude, c'est d'éviter les biais scientifiques, d'éviter le gros problème. Quand on étudie un animal en semi naturel, c'est la perturbation. En effet, alors qu'au laboratoire, le principe de toute étude est d'avoir des animaux contrôle, vous avez des animaux témoins, alors vous avez une population de rats, sur lequel vous allez par exemple perfuser du sérum physiologique, de la même manière que vous perfuserez par exemple des corticoïdes, si vous étudiez le rôle des corticoïdes. Utilisés par les coureurs du Tour de France, hein. Vous allez comparer les deux. Vous aurez la même manipulation dans les deux cas. Le gros problème, quand on étudie un animal dans son milieu naturel, c'est que si on le perturbe, on va voir un impact direct sur, par exemple, son succès reproducteur. Or, on veut connaître l'effet du changement climatique sur le succès reproducteur, sur l'échec dans la reproduction. Comment faire? Et ça, c'est un problème qui m'a tracassé depuis très longtemps, parce que là, il est évidemment très très difficile pour l'animal. Vous voyez bien que le contrôle qu'on manipule de la même façon ne va pas. Il faut aller. On est beaucoup plus exigeant dans l'étude d'un animal en surnaturel que pour un animal de laboratoire. Et ça me tracassé depuis longtemps, car en fait, pour répondre aux questions qu'on se pose, il faut identifier sans impact les individus et à l'échelle des populations. La technique utilisé depuis le début des études d'écologie sur les manchots, c'est le bagage à vélo. Alors, au départ, ceux qui ont été à l'origine de ces bagues métalliques, ça rouille, c'est des bagues en acier inox, se sont dit, mais c'est formidable. Alors d'abord, pourquoi on met des bagues à vélo? Oui, c'est ce qu'il faut que je dise au départ. Tout simplement parce que l'anatomie des pattes de manchot ne permet pas de faire, comme pour les oiseaux de nos jardins, mettre une bague autour de la patte. On ne peut pas. Ça leur ferait mal parce que l'anatomie ne le permet pas. On peut le faire sur des échassiers. On met 6 cônes, là on va pouvoir mettre une barre. Mais on ne peut pas le faire sur des animaux. Alors, évidemment, l'intérêt de cela, c'est qu'on n'a pas à les attraper. En mettant une bague à l'aileron, on peut lire le numéro à distance avec une paire de jumelles. On n'a pas à attraper ces animaux. Ça, c'est quand même un gros avantage. Mais pour autant, est-ce que l'impact des bagues est négligeable? Ça, c'est vraiment une question qui m'a préoccupé dès le moment où j'ai terminé, mais il a fallu attendre un article dans Télé Loisirs, hein, je vous cite mes sources scientifiques. J'avais discuté de ce problème encore une fois, et là on était à la fin, c'était en 1990. Et en 1990, je lis un Télé Loisirs, on dit on a, dans le cadre des programmes européens Eureka, on a découvert une nouvelle technologie, et cette technologie, on a trouvé très rapidement ce que c'était, mais elle n'était pas encore commercialisée. C'est la RFID, l'identification par radiofréquence. Aujourd'hui, les chats, les chiens, c'est devenu vraiment banal. À l'époque, ce n'était pas commercialisé, ça venait d'être inventé. On a découvert que ça avait été inventé par Texas Instruments aux Pays-Bas, et nous avons eu un partenariat avant commercialisation, et c'était en test, sur d'ailleurs des bovins et des porcs à l'époque. Et nous avons eu un partenariat avant commercialisation, et donc les premiers animaux qui ont été suivis ont été des manchots royaux, grâce à la RFID. Alors l'intérêt de cette technique, c'est qu'il y a plein de possibilités. On pourrait suivre des milliers et des milliers, et c'est ce qu'on fait. À Crozet, actuellement, on a une base de données sur 8000 individus, 500 de plus chaque année. Donc on est vraiment à l'échelle d'une population. L'avantage, la lecture est automatique. Deuxième avantage, il n'y a pas de batterie. Et c'est une antenne dans cette... Alors c'est un petit conteneur à de verre. C'est une ampoule de verre qui pèse moins d'un gramme. Et si elle est petite, aussi petite, c'est parce qu'il n'y a pas de batterie. Gros problème de l'électronique, aujourd'hui on fait des choses extraordinaires, mais ce qui prend de la place, et alors s'il y avait une batterie, ben, il faudrait, comment saurait-on à quel moment il faut rattraper l'animal, retirer, ce serait une perturbation. Et on s'est rendu compte que si on transponde, si on met un transpondeur au moment, au début chez les poussins, ils sont peu perturbés, ils restent d'ailleurs là, alors que si on attrape un adulte, mais ça a moins d'intérêt, parce qu'on va avoir l'âge de l'animal, on veut savoir à quel moment il était poussin, on sait qu'un, deux ans plus tard, l'animal se souviendra toujours et passera, s'il nous voit, il va passer par un autre endroit pour ne pas croiser notre chemin. Déjà une notion de perturbation. Alors, quel est l'intérêt de l'identification par radiofréquence? Donc, on approche un champ magnétique, ou alors l'animal s'approche d'antenne, c'est ce que nous avons fait. Donc, à Crozet, nous avons utilisé ce principe avec deux antennes, ce qui nous permet de savoir dans quel sens passe l'animal, rentrant ou sortant. Et là, eh bien, nous pouvons avoir ce vrai animal témoin. Parce que si, par exemple, on met un logger sur un manchot royal pour enregistrer, comme c'est symbolisé ici, sa stratégie en mer, on pourra le comparer à des individus qui n'ont que le transpondeur. Et là, il n'y a aucune gêne. Et vous allez voir en quoi consiste cette gêne. Je vous montre quand même le dispositif que nous avons utilisé. Donc voilà, bon, évidemment, il y a les bâtiments, ça c'est... Voilà la zone qui contient les animaux dont nous sommes quasiment certains, par leur passage, qu'on peut les voir. Alors j'ai dit quasiment certain, il peut arriver que deux individus passant cette même fraction de seconde, aucune des deux détections n'est faite. C'est quand même un cas de figure, et alors comme nous avons des antennes, le risque est très réduit. Et voilà, vu d'hélicoptère, il y a trois endroits de passage, et donc on identifie les passages des oiseaux qui rentrent et qui sortent. Et comme je vous l'ai dit, actuellement, nous avons 8000 individus. Alors certains sont morts, bien sûr, puisqu'on détermine la survie, mais nous avons l'histoire de 8000 individus. Alors évidemment, et bien vous en doutez, par rapport au fil conducteur de cet exposé, nous sommes intéressés à l'impact de la bague. Donc, dans cet espace, nous avons eu des individus qui avaient une bague, qui avaient un transpondeur, et qui ont été comparés avec des individus du même âge, qui avaient uniquement le transpondeur sous la peau, parce que comme c'est tout petit, on peut le mettre sous la peau. Et la préoccupation, vous en doutez évidemment, c'était est-ce qu'il y a une gêne, est-ce qu'il y a une conséquence à l'utilisation du transpondeur autour de l'aileron. Et le résultat a été extrêmement spectaculaire, malheureusement, puisque nous avons découvert qu'une vague à l'aileron induit des séjours en mer plus longs, et là je ne binette pas. C'est un individu qui, au lieu de partir 40 jours, va partir 15 jours de plus. Ensuite, un retard pour se reproduire, c'est-à-dire que les oiseaux vagués reviennent plus tard. Un plus faible engagement dans la reproduction, c'est-à-dire que le pourcentage des oiseaux vagués qui vient se reproduire est plus faible que celui, que le pourcentage de ceux qui sont uniquement transpondés. Une diminution de 40% du succès reproducteur. Une diminution de 44% pour ceux qui s'engagent dans la reproduction, bien sûr. Une diminution de 44% de la survie adulte sur 10 ans. Une diminution de 50% de la survie du poussin à 3 ans. Je veux dire que l'effet est encore plus grand sur les jeunes poussins. Enfin, nous avons démontré que ça biaise l'utilisation des manchots comme indicateur, parce que, vous allez comprendre pourquoi, on ne peut pas a posteriori comprendre ce qui s'est passé dans la mesure où il y a échec aussi bien pour les animaux transpondés avec bagues que sans bagues, lorsque les ressources en mer sont très mauvaises. Parce que là, qu'il y ait ou non l'impact de la bague, s'il y a peu de nourriture en mer parce qu'on est dans une année chaude, tout le monde échoue. Par ailleurs, malgré l'impact de la bague, lorsque l'on est dans une année, ou au contraire, une année froide où il y a beaucoup de nourriture, eh bien l'impact de la bague n'est pas un gros problème, tout le monde réussit sa reproduction. A posteriori, c'est impossible de reconstituer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que toutes les données qui avaient été obtenues sur des oiseaux bagués sont à reprendre. Alors, avantage énorme, on peut bien sûr, avec les transpondeurs, je vous l'ai dit, on peut développer, et donc maintenant ça fait presque une dizaine d'années, j'ai essayé de trouver l'argent, je l'ai trouvé pour recruter des informaticiens, des professionnels, qui fait que là, vous voyez, on visualise toutes les rentrées-sorties des animaux. Et cela, alors on peut avoir des individus, comme ici, par exemple, dans l'image suivante, on peut reconstituer le cycle pour une femelle et un mâle d'un même couple. Et nous travaillons actuellement, parmi toutes ces milliers de données, à la détection automatique des couples, pour que ça se fasse automatiquement. Parce que, et ça c'est possible, parce que quand un individu rentre, à peu près une heure plus tard, le conjoint sort. Quel est l'intérêt de ça ? Quel est l'intérêt de ça ? C'est que ça permet de, d'obtenir, alors maintenant, d'avoir une problématique sur l'impact du changement climatique, non biaisé par l'étude expérimentale. Et ici, c'est le cas dans cet article qui est apparu dans les CNAS, donc c'est les Proceedings des Communes des Sciences des États-Unis, où nous avons en ordonné la probabilité de la survie pour des manchots royaux. Probabilité de survie, vous voyez qu'elle diminue lorsqu'on a une augmentation de la température de surface de la mer. Vous voyez ici, c'est entre 1,1 et 1,4 degrés, donc une variation de seulement 0,3 degrés. Eh bien, pour seulement 0,3 degrés d'augmentation de la température de surface de la mer, nous avons une diminution de l'ordre de 10% de la probabilité de survie. Là, nous avons utilisé des données naturelles, ce n'est pas du tout des spéculations. Nous avons utilisé des données des années chaudes et des froides, années froides correspondant à une évolution naturelle. Mais les prévisions de nos collègues climatologues sont de 0,4 degrés par exemple d'augmentation au cours des 20 prochaines années, ce qui veut dire que d'après nos calculs, s'il n'y a pas d'adaptation des manchots royaux, dans un siècle et demi, ces populations de crozets auront disparu. Donc vous voyez, l'importance d'éliminer, pour ce type d'études en tout cas, il y a des études qui requièrent absolument une approche expérimentale en physiologie, mais ben là, on va pouvoir avoir de toute façon des contrôles. On pourra avoir des contrôles. Alors, par exemple, l'idée, quand on a des relations comme ça, on se dit, si on capture pour les peser des manchots, on va avoir l'effet direct de la faible disponibilité en mer. Parce qu'on pourra comparer en fonction de la durée du séjour en mer, on sait par toutes les techniques satellitales, on sait qu'à un moment donné, il pourra y avoir moins de nourriture et on doit pouvoir le retrouver dans la faible augmentation du poids des animaux sur un temps d'absence classique, ou bien ils devront rester deux ou trois fois plus longtemps au détriment d'un succès reproducteur. Parce qu'ils sont trop longtemps partis, l'individu qui a jeûné à terre risque d'abandonner et d'abandonner le poussin. Vous voyez, on peut rentrer dans cette problématique. Mais là encore, quel impact? Comment l'éviter? Il y a eu une étude qui n'a pas été faite depuis parce qu'elle était trop complexe, qui a permis d'avoir les variations d'hormones de stress. Et je l'avais faite à mon arrivée à Strasbourg. J'avais utilisé des oies qui font un volume de sang à un animal de taille suffisante. J'ai fait ça au laboratoire, donc, avec un système de connecteurs tournants et de balanciers. Vous savez, comme les anciens tourne-disques, ce qui permettait de prélever du sang dans la pièce d'à côté. Et j'avais démontré à l'époque que contrairement à ce qu'on dit, un animal habitué qui ne montre pas de perturbation quand il est attrapé pour être pesé régulièrement, eh bien même en laboratoire, j'avais montré un impact considérable, dans la mesure où les hormones de stress, c'est-à-dire les catécholamines, donc noradrénaline, adrénaline, les corticoïdes, augmentent, et augmentent de 4 à 5 fois, et il faut presque une heure pour retrouver les valeurs initiales. Dans la nature, encore une fois, c'est encore plus problématique parce que les individus peuvent abandonner, risquent d'abandonner. Donc, comment suivre l'évolution de la masse corporelle de ces animaux lors de leur voyage alimentaire en mer? Et pour cela, on a installé un dispositif, donc que vous voyez ici, et il fallait éviter aussi que, c'est pour des manches rendez-vous, il fallait éviter que les individus se retrouvent face à face sur la balance. Donc là, cette technologie a été utilisée. Alors c'est évidemment, comme les individus sont identifiés électroniquement par RFID, il faut évidemment des matériaux qui ne posent pas de problème, donc les matériaux sur lesquels ils passent ne sont pas métalliques. Et nous avons une rentrée, une sortie. Alors comment on a fait? On a fait en sorte que quand l'animal arrive, l'espace central est occupé par la passerelle de pesée que l'on veut que l'animal utilise. Et ce qui prouve que ça marche bien, c'est que nous avons des chenapans manchois d'élis qui n'appartiennent pas à notre colonie d'études, qui viennent dans notre colonie d'études pour voler des cailloux à nos animaux d'études et qui ne se trompent pas de passerelle. Donc, je peux vous dire que ça marche bien. Alors, autre problème, vous allez me dire, la précision de la pesée. Comment fait-on? Tout ça est simple, mais prend du temps, il faut trouver des astuces. Le bon problème, c'est que si on allongeait la plateforme de pesée, on était confronté au fait qu'on se retrouvait avec deux ou trois manchots, parfois, passant en même temps sur la balance automatique. Donc, ce qu'on a fait, on a divisé en trois plateformes indépendantes. Ce qui fait que, par exemple, là, nous avons le passage d'un seul manchot, et si on a deux, on arrive bien à différencier. Termine par les nouveaux développements, qui sont liés à une autre question que je me posais, c'est comment peut-on faire pour identifier et localiser des individus d'histoire connue, donc avec un transpondeur, dans leur colonie, sans les perturber? Comment peut-on faire? Le gros problème, je n'ai parlé que des avantages de la RFID. Il y a un énorme inconvénient dans la RFID, c'est la distance maximum de lecture. C'est-à-dire qu'au bout de 60 cm, vous ne pouvez pas identifier l'animal. Alors, si on veut rentrer dans la colonie, savoir si par exemple un manchot royal est en périphérie ou au centre, en fonction de son expérience, en fonction de son âge, c'est les questions qu'on se pose. Parce que si par exemple on sélectionne que des individus peu âgés, peu expérimentés pour étudier l'impact du changement climatique, on va complètement fausser les résultats. On veut avoir des animaux de différentes classes d'âge, de différentes expériences. Si on vient avec la méthode classique, celle qui est utilisée pour les bovins, justement, pour les bovins ou pour les porcs, c'est-à-dire un système manuel, pour être à 60 cm, vous imaginez la perturbation. Mais ça n'avait pas été étudié. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent? On pouvait, on l'a fait, installer, comme ici, on l'a installé schématiquement parce que c'est enterré, c'est d'autres colonies, on met une antenne dans le sol. Mais encore une fois, ça ne va pas penser sur qui est, par exemple, au milieu de cet espace-là. Il n'est pas question d'y aller. Bon, de toute façon, Cédric Marteau ne nous permettrait pas. Donc, une idée qui était peut-être un petit peu farfelue, et j'ai de jeunes collègues qui ont dit ça, c'est une lubie de pré-retraité. Je me suis dit, à partir du moment où on veut approcher une antenne dans la colonie pour identifier les animaux dont on se connaît l'histoire, parce qu'en allant évidemment, on sait en gros quelle est leur histoire, mais on voudrait savoir où ils sont dans la colonie et on ne peut pas. À partir du moment où je vais utiliser une antenne, et pourquoi pas deux antennes en même temps, si on mettait cette antenne sur des roues, et si on télécommandait, on aurait ceci. Ça, c'était la première version, parce que il faut que ça résiste à l'humidité, que ça résiste au climat salin causé et au sable. Donc là, vous avez deux antennes circulaires de part et d'autre de ce robot. Et on a démontré que c'était possible, qu'il identifiait les animaux avec les puces électroniques de part et d'autre de son endroit de passage. Alors, là, vous le voyez d'après la photo, mais je vais mieux le montrer. Vous voyez qu'ils ont le bec orienté, les manchots royaux sont territoriaux, comme la plupart de nos animaux. Je parlais des mésanges, des mères dans le jardin, ils défendent un territoire au moment de la reproduction. Et finalement, le comportement qu'ils ont vis-à-vis du robot, c'est le même que celui qu'ils ont lorsqu'un individu en relève traverse la colonie. Alors, évidemment, vis-à-vis d'un comité d'éthique, vis-à-vis des éditeurs, des publications, il fallait donc prouver, sinon ça n'avait aucun sens, que le robot permettait d'approcher les animaux pour lire l'identité avec transpondeur, mais sans perturber. Il fallait le démontrer. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors ici vous avez un robot, et vous voyez que ces robots doivent être conçus avec une grande solidité, puisqu'il est même retourné par moment. Alors je vous demande un petit peu de patience, parce que ce qu'il faut attendre, c'est le moment où il va s'immobiliser. Voilà, là il va s'immobiliser. Regardez ce qui se passe, dès qu'il s'immobilise. Il y a bien sûr une méfiance vis-à-vis des autres individus, mais il l'oublie. Dès que le robot repart, aussitôt, il va être la cible à nouveau. Voilà, mais il se calme. Et aussitôt après, coup de bec. Alors, il fallait objectiver ça. Ça ne suffit pas de montrer ça pour une publication ou pour un responsable de réserve naturelle. Ça ne marche pas. Donc, grâce à René Grocolin, qui avait eu l'idée déjà depuis plusieurs années, d'utiliser les systèmes qu'on utilise pour le jogging. Vous savez, les cardio-tachymètres, c'est-à-dire qu'on a un petit émetteur autour d'une sangle qui renvoie un signal à une espèce de montre. Et alors, cette espèce de montre, vous la voyez, l'équipe, là, c'est des animaux qui ne vont pas en mer, hein, donc on les laisse évidemment pas partir en mer avec ça. Donc là, s'enregistre la fréquence cardiaque de l'animal, le système électronique se trouvant dans son dos. Et on a des astuces qui permettent d'équiper ces animaux sans qu'ils réalisent que c'est l'homme qui le fait. Là, on a plein d'astuces pour ça. Et ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on a déterminé la variation de la fréquence cardiaque, qui est le reflet du stress, lors d'une approche humaine, ou lors de l'approche d'un robot. Il fallait montrer, c'était ça l'objectif, sinon ce n'était pas la peine de se lancer dans cette voie. Il fallait l'abandonner. Donc, ici, l'article est apparu en novembre dernier. Et donc, vous avez ces augmentations en partie de la gauche, selon des approches. Vous voyez qu'en noir, en sombre, l'augmentation de la fréquence cardiaque est beaucoup plus grande avec l'homme, en présence de l'homme, qu'en présence du robot. Et qui plus est, là, ça confirme ce que vous avez vu en image, Lorsque le robot s'immobilise, donc là c'est la zone grise, on voit que très rapidement la fréquence cardiaque du manchot redevient celle qu'elle était au niveau basal. Pour l'homme, il faut beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps, et d'ailleurs, la fréquence cardiaque reprend sa valeur bien après, vous voyez, même 3 ou 4 minutes après le départ de l'homme. Pourquoi ? Tout simplement parce que, vous l'avez sur l'image, quand quelqu'un est dans la colonie, il fait vide autour de lui. Les manchots s'écartent, ils reculent. C'est ce qu'on voit bien sur l'image du haut. Alors que là, il est immobile, le robot. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser un robot pour recueillir des informations sans les perturber. C'est extrêmement important pour l'avenir. Vous allez voir le robot, alors une nouvelle génération de robots. Donc, ceux qui ne sont pas cantonnés partent. Et là, vous allez voir un immature qui va suivre pendant tout le trajet. Il va poursuivre le robot. Donc ce robot-là, c'est un Kerguelen, Ratmanov. Il est en train d'identifier les individus. Et nous savons que l'augmentation de la fréquence cardiaque au passage du robot est la même que si c'est un manchot qui passe. Donc là, on n'a pas la perturbation humaine. On vient de réduire la hauteur de l'antenne. On fonctionne parce que l'antenne ne supportait pas les coups de bec. Et puis maintenant, je vais vous montrer, alors là, c'est une impression de vitesse, c'est le même type de passage, mais là, c'est l'image est sur le robot. Vous allez voir, ça donne une impression de grande vitesse. Ça veut dire que le robot, là, identifie les individus qui sont de part et d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant pour l'empereur? Puisque vous vous souvenez, au départ, j'avais pris les deux espèces. Eh bien, ça s'est révélé beaucoup plus compliqué pour le manchot empereur. Voilà un robot qui est immobilisé. Là, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Il y a même, dans cette direction, un adulte qui vient voir avec un coussin sur ses pattes. Parce que vous voyez la tête apparaître par moment. Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut pouvoir approcher les animaux activement. On ne veut pas qu'ils ne viennent que lorsqu'ils sont. Ils ont la curiosité de voir le robot. Et ce qu'on a dû faire, là c'était une autre idée, on s'est rendu compte que si on camouflait le robot avec un faux manchot, à ce moment-là, on avait des résultats absolument spectaculaires, et c'est ce qui a fait le tour du monde. Donc là, vous avez un adulte et un poussin qui, normalement, lorsque le robot n'est pas camouflé par le faux poussin, recule. Et pourquoi l'empereur recule ? C'est parce que l'empereur n'a pas de comportement territorial. C'est pour ça qu'on a une procédure. C'est un des rares animaux dans le monde animal, dans le animal, qui n'ont pas de défense de territoire avant la reproduction. Et l'explication, c'est parce que les empereurs doivent se serrer les uns contre les autres pour réduire leur dépense d'énergie. S'ils avaient un comportement territorial, ils ne le feraient pas. Ils ont perdu ce comportement qui est commun à l'ensemble des animaux. Il y a aussi des chauves-souris qui ont un même comportement au froid, dans des grottes lorsqu'il fait très froid. Alors, les résultats, ils ont été vraiment étonnants dès qu'on a utilisé ce faux poussin, puisque vous voyez même ici le faux poussin qui est dans une crèche de poussins. Mais, il n'est pas encore satisfait parce que, au-delà de ces beaux poussins, deux problèmes. Le premier problème, c'est que, vu la taille du poussin, le robot est de toute petite taille. On ne peut pas mettre beaucoup d'équipement. Et par exemple, un GPS de très grande précision, ben, il est déjà plus grand que ce petit robot. Et on veut pouvoir mettre de grosses batteries pour l'hiver. Deuxième problème, le faux poussin ne permet pas... Il permet d'étudier les empereurs au moment des petits poussins. Il ne permet pas au moment de l'incubation, parce que là, il recule. Donc, je me suis lancé dans un nouveau projet pour lequel je viens d'obtenir le financement. C'est un faux manchot toboganant. Pourquoi toboganant? Parce qu'un manchot vertical, on a essayé avec le vent, la pression des eaux, il va remonter. Donc là, on a un volume d'à peu près l'équivalent d'un animal de 30 à 40 kg. On peut mettre de grosses batteries. Et on pourra mettre également un système de navigation, c'est-à-dire quand il sera masqué par celui qui le pilotera, il va se déplacer sur chenille. Parce que là aussi, on s'est rendu compte que les roues, ça marche très bien pour les royaux, mais ça ne marche pas pour les empereurs. Ils aiment ce qui glisse. Probablement parce que eux-mêmes glissent.
Souvent, en toboganant, c'est passant sur le temps.
Voilà un nouveau projet qui est en train de démarrer et qui rentre donc sur cette ligne directrice qui était développer de nouvelles technologies pour éviter la perturbation et répondre aux vraies questions qu'on se pose. Je vous remercie pour vos attentions.
Tu as dit en toboganant, c'est-à-dire il n'a pas de roue?
Toboganant, c'est l'expression qui est utilisée pour le manchon empereur.
Le manchon empereur se déplace en toboganant. C'est l'expression depuis Jean Prévost, comme un toboggan. Et d'ailleurs, il y a un article qui a été réalisé qui est en cours de soumission par des Américains. Et c'est bon, enfin, secret d'État de dire qu'ils ont découvert, par exemple, que le matelas de plumage est deux fois plus épais au niveau ventral que dorsal, ce qui n'est pas courant chez les oiseaux, tout simplement parce qu'ils sont souvent, vous imaginez, quand ils sortent de l'eau à grande vitesse, ça fait un bon matelas lorsqu'ils retombent sur la glace. Et ils se déplacent. Maintenant, on pense que contrairement à l'idée de ces longues marches où ils vont, non, ils marchent peut-être sur les 10 km d'arrivée dans la Méditerranée, mais ils sentent bien que la plupart du temps, ils se déplacent sur le ventre en toboganant. Et donc, autre avantage de notre faux robot qui sera un faux manchot adulte toboganant. Autre avantage, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a toujours des interférences magnétiques lorsqu'on a un moteur. Et donc, on réutilise la distance de lecture RFID. Et le fait d'avoir, on a déjà mis ça au point, ça s'est fait, le fait d'avoir les antennes dans les ailerons, donc légèrement en dehors du corps de l'animal, nous permet d'augmenter la distance de détection RFID. Mais il y a plein d'autres questions. Par exemple, ce qu'on voudrait, c'est que le faux robot adulte ait les mouvements des pattes et des ailerons comme un vrai manchot. Le gros problème, c'est que tous les robots actuellement fonctionnent avec des servomoteurs. Un servomoteur, ça fait ça. Vous faites reculer l'animal. Donc, pour avoir des mouvements, on développe une collaboration avec des gens qui sont les leaders dans la robotique chirurgicale. Parce qu'en robotique chirurgicale, ils maîtrisent ces technologies de moteurs qu'il faut battre.
Oui. Pourquoi une petite bague métallique a-t-elle autant d'influence?
Je pense pour la même raison que si on mettait une bague sur l'une des hélices du Charles de Gaulle il y a le moins 8. C'est vraiment un effet mécanique. Mais c'est vrai, hein, c'est une question d'hydrodynamique. Doublement handicapé. Alors, ce qu'on sait, non, parce que c'est Yves Andrich qui avait eu l'idée. À l'époque, on n'avait pas encore la RFID. Il avait comparé des manchots avec une bague et avec deux bagues. Et il avait vu qu'avec deux bagues, c'est encore plus. Mais on aurait pu penser que non. Il faut voir qu'un manchot empereur peut descendre à 500 ou 600 mètres. Et que l'effort pour vaincre la poussée vers l'Archimède est considérable. J'ai eu l'occasion d'être dans un tube sous la banquise avec les Américains. On voit qu'à chaque mouvement d'aileron, ils sont tellement violents qu'il y a des bulles qui sortent du plumage.
Est-ce que le faux manchot, un vrai manchot à une certaine température, le faux manchot, est-ce qu'il est froid ou pas?
Ben, il sera nécessairement un peu chaud, il n'aura pas 38 degrés, mais on a tout à fait intérêt à ce que les batteries qui sont à l'intérieur soient à une température supérieure à la température ambiante. Maintenant, les manchots n'ont pas d'olfaction. Je ne pense pas qu'ils soient capables de déterminer une température. Les oiseaux qui déterminent les températures, c'est par exemple les oiseaux, les mégapodes, en Australie, qui couvent dans des tumulus de sable. Ils sont capables de mesurer la température. Les manchots, on ne pense pas. Enfin, ça m'étonnerait. L'olfaction n'existe pas, et ça, c'est très bien. Le pétrin des neiges utilise l'olfaction. Ça serait un problème. Ça serait un problème, parce que je pense qu'à ce moment-là, un oiseau qui a l'odorat très développé pourrait
Manifestement, avec le faux petit coussin, on les trompe. Ils se mettent à chanter pour se faire. Alors là, on a une autre préoccupation. Si le faux manchot doit se faire identifier par les manchots, il faut qu'on lui donne une voix. Et pour ça, on prendra des enregistrements que j'ai faits il y a plus de 40 ans avec François Robert, parce qu'on est sûr que les oiseaux qui ont émis ces sons n'existent plus aujourd'hui. On a dépassé la longévité des animaux. On ne voudrait pas introduire de confusion avec des individus qui existent. Oui.
C'est assez formidable ce que tu m'en racontes. C'est incroyable. C'est bien plus compliqué que pour les glaciers, etc. Mais dis-moi une chose. On ne va plus revoir ces colonies de manchots.
Pour l'instant, nous ne trouvons pas comment les manchots pourraient s'adapter à de telles variations. Non pas qu'ils soient sensibles à ces variations de température. C'est rien pour eux. Mais c'est probablement ce qu'on voit, les résultats que nous avons montrés, parce que les ressources marines sont très sensibles aux variations de température. Un dixième d'augmentation de la température de la mer, ça signifie une baisse du krill. La biomasse de krill diminue.
On n'en parle pas souvent de ça.
On n'en parle pas souvent. C'est la sensibilité des proies, des animaux marins, à la température. La biomasse, la reproduction du krill est vraiment incroyablement déterminée par la température, et c'est au dixième de degré.
Bien, tu peux me dire la date de nature là.
Lequel?
La couverture.
Alors, on en a fait deux couvertures de.
Alors,
de
les deux dates.
Alors, on a fait, mais j'en ai pas parlé, on a fait une couverture de Nature en 2000, Noël 2000. C'était quand on a découvert la molécule la conservation de poissons intacts dans l'estomac des manchots. Et les éditeurs de Nature ont dit là, ça va faire un cadeau de Noël, parce que c'est le cadeau du père. Car c'est le père qui, assurant la dernière partie de l'incubation chez Manchot Royal, a ramené du poisson dans son estomac intact et l'a conservé jusqu'à l'éclosion pendant environ 3 semaines à 37-38 degrés.
Ça, c'est le père.
Et ça, c'est une ouverture de Nature. Et ensuite, quelques années plus tard, on a découvert une molécule antimicrobienne responsable de ça, une protéine qui est produite dans l'estomac. Et on a démontré, mais j'en ai pas parlé ce soir, c'est une molécule qui s'est révélée très efficace contre le staphylocoque doré et contre Aspergillus, qui est un champignon pathogène responsable de l'Aspergillus. Et là, je vais reprendre bientôt, parce que là, on a de grosses difficultés, on a un brevet pourtant. Et mon épouse me demandait, là où on était justement hier, et en fait, j'ai découvert une chose, et ça m'a anéanti, les fabricants de médicaments sont d'abord intéressés par des molécules qui ne coûtent rien à fabriquer. C'est l'élément déterminant. Probablement parce que leurs investissements sont considérables, enfin moi je ne peux pas justifier ça, mais... Et en fait, cette molécule... Qui permet la conservation. J'ai travaillé avec Jules Hoffmann, qui a eu le prix Nobel sur les insectes, les molécules, ce type de molécules chez les insectes. Ce type de molécule contient du soufre et des ponts sulfures. Et ça coûte plus cher de fabriquer des protéines avec des ponts sulfures. Et moi, naïvement, je pensais que c'était l'efficacité du médicament qui était l'élément déterminant. Alors ça, c'était la couverture de 2000, et puis on a fait... l'effet des bagues, donc marqué à vie, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, les éditeurs ont mis ce sous-titre marqué à vie, c'est en 2011, janvier 2011. Il y en a eu 10 au total sur ces traces.
Chapeau.
Détail concernant la dernière molécule que vous avez mentionnée,
oui.
Qui inhibe la digestion et puis qui...
Alors, elle n'inhibe pas la digestion.
Intervient ce peptide pour arrêter la digestion et puis éventuellement arrêter la décomposition du bol alimentaire.
Alors, cette molécule ne joue certainement aucun rôle dans l'arrêt de la digestion. J'ai fait le choix, il y avait deux questions posées. Comment ils arrivent à ne pas digérer le contenu stomacal de l'estomac? La deuxième question, comment arrivent-ils à conserver un tas? Puisque dans l'article qui a fait la couverture de Nature, on a montré qu'on peut retrouver un calmar de 5 kg absolument intact. Il est comme s'il avait dépêché la veste. Mais, donc, on ne pouvait pas. Honnêtement, répondre à des questions comme ça, c'est des années de travail. J'ai fait le choix d'étudier le mécanisme de conservation. Parce que je trouvais, et puis je ne me suis pas trompé finalement, puisque médicalement, c'était plus intéressant. Il est probable que les molécules responsables de l'arrêt de la digestion sont des molécules qui correspondent au cycle reproducteur. Prolactine, par exemple, ça pourrait être ça. Mais est-ce qu'on l'a pas écrit ? On ne sait pas. Donc, on a choisi d'étudier le mécanisme de conservation. Et comment on a choisi cette piste ? Parce que des pistes, il pouvait y en avoir beaucoup. Je connaissais les travaux du Jules Hoffmann, donc il a eu le prix Nobel quelques années plus tard, sur des molécules antimicrobiennes en démontant certains aspects moléculaires chez les insectes. Et je me suis dit, on a un savoir-faire à Strasbourg, dans ma ville, qui est exceptionnel dans ce domaine. Pourquoi pas ? Alors je lui en ai parlé. Est-ce que tu ne crois pas que ça pourrait être des défensives ? Parce que ces molécules s'appellent des défensives. Nous en produisons des défensives. Ce ne sont pas les mêmes. Mais par exemple, dans toutes les régions qui sont très aqueuses et chaudes, par exemple sous les bras, sous les aisselles, nous produisons tous les jours des défensines pour éviter une infection. Je crois que nous produisons quelque chose comme 1 gramme de défensine dans notre salive par jour. Et lorsqu'il y a une immunodéficience, à ce moment-là, je pense qu'on n'a plus ce type de molécules. Donc voilà, ce sont des défensines, c'est la famille des défensines, et il y a une défensine tout à fait particulière au mangeoire. Et on a continué à travailler dessus, et on la trouve dans tout l'organisme de l'animal. Alors pourquoi cette molécule, on a au moins une explication, est très efficace contre l'aspergillose, qui est un champignon pathogène épouvantable, ça envahit les poumons, eh bien c'est cohérent avec le fait que les soigneurs de manchots dans les parcs zoologiques ont une crainte phénoménale de l'aspergillose. Les manchots captifs sont très sensibles. Donc, on comprend que dans la nature, ils aient une molécule très efficace contre eux. Et alors, ce qui peut tout changer, c'est si quelqu'un découvre comment fabriquer des protéines avec des ponts disulfures, acides aminés avec ponts disulfures. C'est 40 ou 50 acides aminés, c'est des petites molécules. Ce n'est pas des grosses molécules. Et si quelqu'un découvre comment les fabriquer à très, très bon marché, ça peut complètement changer, puisque cette molécule permet de conserver des aliments.
Parce qu'à Strasbourg, vous avez des synthétiques.
Ah, bien sûr. Bah, j'ai trouvé l'argent pour les synthétiques. Et
les synthétiques sont en arrière de la formation d'orchidées ?
Non, c'est une question pertinente. Et c'est une des raisons pour lesquelles je veux pouvoir identifier électroniquement les manchots en dehors de la période où il y a des jeunes poussins, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en train de couver. Parce que quand vous avez une tortue compacte, il y a de toute façon un mouvement. Même si elle reste compacte, il y a un mouvement des individus qui sont alternativement à la périphérie et à l'intérieur. Alors, ce n'est pas une question de leader, d'individus qui se débrouillent mieux que d'autres. Tout le monde est à la même enseigne. L'ensemble de la tortue est poussé par le vent. Ils tournent dos au vent. Donc ils vont dans la direction opposée au vent, et ceux qui sont les plus exposés, donc qui ont le dos au vent, marchent le long de la tortue à l'extérieur. Et donc nous savons, en ayant mis des logueurs, des mesures de température, on sait qu'ils sont alternativement à l'extérieur et à l'intérieur. Et le fait d'avoir un manchot toboganant qui pourra faire le tour sans les effrayer, parce que c'est ça le but. Et c'est possible parce que en plein hiver, au moment où il y a des tortues et des individus qui circulent dans la colonie en toboganant, l'idée, c'est d'identifier en faisant 4-5 passages par jour, par exemple, on arrivera à savoir avec quelle fréquence ils se retrouvent à l'intérieur et à l'extérieur, ce qu'on n'a pas très bien pu déterminer avec des systèmes de détectant la température.
T'as encore du boulot ?
Ah oui. Mais tu sais très bien que les chercheurs, ils font comme s'ils étaient éternels. Et là, ils sont complètement irréalistes.
Le manchot se reproduit exactement au même endroit ?
Ça, c'est une très bonne question.
Est-ce que tu as pu constater que c'est strictement le même endroit ?
Non, justement, on s'est préoccupé de la question et on est en train de travailler sur les aspects génétiques. Parce que, je vais donner deux exemples, on travaille aussi sur les tortues marines, les tortues lutes. On a découvert, vous allez comprendre pourquoi je commence par les tortues lutes. Les tortues lutes Nous avons montré, en les suivant par Dalis Argos, qu'elles scannent tout l'océan Atlantique. Elles partent de Guyane, le site de Guyane. Elles vont jusqu'à Terre-Neuve. Elles vont jusqu'en Floride. Elles vont aux îles du Cap-Vert. Donc, elles scannent complètement l'océan Atlantique. C'est énorme comme pérégrination. Eh bien, les populations qui sont situées à seulement 200 km à terre, sur le sable, celles qui pondent, hein, on parle de population, les pondeuses, sont deux populations génétiquement différentes. Donc on est en train de travailler actuellement, mais c'est encore un petit peu trop tôt, sur la génétique des manchots. Parce que, si ce n'est pas le cas, si par exemple, à supposer que les empereurs ont à chaque fois une structure génétique différente selon la population, puisqu'on a découvert les nouvelles colonies du Mertz avec André Ancel, on est en train de travailler là-dessus, parce que si ces populations sont les mêmes génétiquement, ça veut dire qu'il y a des passages de l'une à l'autre, et qu'à ce moment-là, ça serait tout à fait cohérent avec le fait que par satellite, on a découvert qu'il y a des colonies qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. À ce moment-là, on pourrait penser, voilà, on a peut-être trouvé un moyen d'adaptation aux conditions climatiques. S'ils sont capables, dès que ça ne va pas, on essaie tout aussi. Donc, on n'avait pas les techniques. Ce qu'on fait vraiment au laboratoire, c'est que, comme c'est ce qui a été fait finalement en glaciologie, nous avons un questionnement. Si nous n'avons pas les techniques, nous allons les chercher. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et là, nous n'avions pas vraiment l'équipement en génétique pour faire ça très rapidement. On aurait mis 20 ans. Et en 2 ans, on a bien avancé en travaillant avec un laboratoire d'excellence qui est norvégien. C'est ce que vous avez fait ici. On recherche les collaborations les plus efficaces pour répondre aux questions. Ce n'est pas la technique qui détermine ce qu'on fait, c'est le questionnement, et puis on essaie de développer les techniques. C'est ce que je vous ai montré ce soir.
C'est bien beau, Steve.